Parti, attention, voilà. Ok, alors Erev Tov les Koulam, Givat Shmuel, Erev Tov, on est parti pour eh bien, les deux dernières parachiotes du livre de Bamidbar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les deux dernières parachiotes du livre de Bamidbar? Eh bien, on a fini avec tout ce qu'on avait à apprendre du désert. Ça y est. Tout a été réglé, tout a été conclu dans la paracha de Pinchas, puisque finalement, la paracha de Pinchas vient faire un décompte des Bnei Israël. Rashi dira que c'est un espèce d'inventaire Sfirat Mlai pour dire voilà, on a commencé le livre de Bamidbar avec un décompte, on le termine avec un décompte pour dire tout ce qui reste après tous les événements. Donc vraiment, le livre de Bamidbar s'arrête à la fin de la paracha de Pinchas. Donc à quoi sert la paracha de Matot et de Massé? Eh bien, c'est le sevrage du désert. C'est la dernière dose de médicament qu'on a besoin. C'est plus le même médicament. C'est un médicament de voilà de c'est de la kiné. C'est de la kiné. C'est-à-dire qu'on nous a retiré le plâtre et maintenant, eh ben, on va faire de la kiné pour pour être en forme, pour pouvoir véritablement rentrer en Israël dans le livre de Devarim. Vous allez me dire, on n'est pas en Israël dans le livre de Devarim, Zénachon, mais le livre de Devarim, c'est les directives de la vie en Israël. Tout simplement. Et donc, eh bien, cette paracha de Matot et Massé, ce sont les parachiotes qui viennent non pas nous apprendre des choses au niveau du désert, mais qui viennent tout simplement nous donner on va dire les choses qu'on a besoin pour rentrer dans ce qu'on appelle dans la Torah la Geshet Bene Israël et la Kodesh, à savoir, eh bien, le livre de Devarim et la terre d'Israël. Alors, c'est quoi ces choses-là? Quelles sont les choses qu'on a besoin? Qu'on avait besoin avant de pouvoir même rentrer en Eretz Israël. Eh bien, les amis, je voudrais commencer par notre ami Corona, évidemment, on le connaît bien. Et ma fille m'a demandé, Lama. Lama le Corona. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants qui vous ont demandé, Ava, Lama le Corona. Mais moi, ma fille, elle m'a demandé la semaine dernière, nous, Lama. Lama Zeba. Pourquoi est-ce que le corona, il est venu? Alors voilà, ça c'est une grande question. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Pourquoi le corona? Une idée? Non, bah, moi je lui ai dit, écoute, c'est soit Batman qui a laissé traîner une de ses chauves-souris sur le marché à Wuhan. Soit c'est un pangolin qu'on n'a toujours pas vraiment compris quelle espèce d'animal c'était. Soit c'est des expériences top. Quoi?
Il y a des gens qui disent que ce sont des lamas, justement.
Ah bah tu vois, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de se demander lama zeba. Et voilà. Et voilà. Eh oui. Donc, je lui ai dit ça. Elle m'a dit non, Bémette, je veux pas savoir au niveau médical, d'où ça vient? Mais pourquoi Hachem nous envoie la corona? Alors je lui ai dit, écoute ma fille, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, et j'ai raté mon examen de prophétie la semaine dernière, donc je ne sais pas pourquoi Dieu décide d'envoyer le corona. Et tous les rabbins ou pas rabbins qui te disent qu'ils savent pourquoi il y a le corona, ce sont des menteurs. Maintenant, ceci étant dit, puisqu'il y a le corona et que on le vit d'une certaine façon, rien ne nous empêche, nous, d'en tirer des enseignements. Or, comme ce corona nous a obligés à nous cacher le visage depuis quelques mois, et particulièrement la bouche, peut-être que à la derrière, à force d'avoir un masque toute la journée, peut-être qu'à la derrière, on peut prendre un tremp et essayer de comprendre que ben, ce qui sort de notre bouche, on peut peut-être faire attention. De la même façon qu'on met un masque, on a le droit de faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. C'est pas interdit de prendre sur soi, de se renforcer dans cette mitzvah qui est le Lashon Hara. Ça peut le faire, ça peut être bien. Je dis pas du tout que le corona il est venu parce qu'on a dit du Lashon Hara. Je dis que si déjà on se met un truc sur la bouche maintenant, rien ne nous empêche de l'ikfos tremp. Elle dit, ah bon, ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et en vérité, rien à voir avec le corona, mais la parole, notre parole, eh bien, c'est le sujet qui est le sujet d'ouverture de notre paracha de Matot. La paracha de Matot va ouvrir avec les lois sur les nédarim. Ilchot nédarim. Et il faut bien comprendre de seconde qu'est-ce que c'est qu'un néder. Qu'est-ce que c'est un néder? Eh bien, les amis, on va faire très simple. Un néder, c'est tout simplement la capacité d'inventer une nouvelle religion. Voilà. Le néder, c'est la capacité que j'ai d'inventer une nouvelle Torah. Exemple, dans la Torah que moi je connais de Moshe, les bananes n'ont pas de statut particulier. Tu manges une banane, tu ne manges pas une banane. À Kol Beseder. Je peux, moi, décider de l'indor à la bananote. Je peux décider parce que moi, les bananes, c'est mon truc. Moi, je suis bananologue. Donc, je peux décider que maintenant, moi, les bananes, c'est ça qui me rapproche de Dieu. Vaninoder les rol banana beyom. Ok? Maintenant, imaninoder les rol banana beyom, ça devient pour moi une mitzvah tassé. Je suis obligé de manger une banane par jour. Et si je ne mange pas une banane par jour, je transgresse un commandement positif. C'est comme si je n'avais pas mis les tefillin. À l'inverse, moi, je sais que je suis, je sais pas comment on dit en français, je suis poophobe. J'ai peur de la peau des animaux. Donc, un inodère de ne jamais mettre les tefillines. Un inodère. Donc, je n'ai plus le droit de mettre les tefillines. Et si je mets les tefillines, je transgresse un commandement de l'Otasé, oui?
C'est
pas un néder qui va contre la Torah. La Torah, elle m'a permis de faire des nédarim.
Mais si je fais le néder de transgresser tout le temps le Shabbat, c'est pas nul.
Alors, attends. Justement, là, tu m'amènes dans la quatrième partie que je n'ai pas encore amenée comme exemple. D'ailleurs, je rappelle que Stam Neder, ça ne dure que 30 jours. OK? C'est-à-dire qu'à la base, le Neder, il devrait être que pour 30 jours. Finalement, il devrait être pour une année, c'est-à-dire que j'ai une année pour remplir mon Neder, et il y a des gens qui prennent sur un Neder tout le temps. Mais encore une fois, le Neder n'est pas quelque chose qui est le top du top d'après le judaïsme. Maintenant, il y a quatre possibilités, et seulement trois d'entre elles sont nédarisables. J'explique. La parole, on le sait, est créatrice. Dieu a créé le monde par la parole. Par ma parole, je peux aussi créer des choses. Lui, Dieu, par sa parole, il a créé des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Par mon éder, je peux moi aussi créer des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Je peux également annuler une mitzvah positive. Par contre, je ne peux pas, avec mon éder, annuler une mitzvah négative. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite à la parole de l'homme par rapport à la parole de Dieu. Donc, l'exemple que j'ai donné avec les tefilines, un inodère que j'ai plus le droit de toucher les tefilines, j'ai parlé de poophobe, mais c'est un peu débile ce que j'ai dit. Mais disons que parce qu'une fois j'ai mis les tefilines et j'ai tellement voulu mettre les tefilines que, je sais pas moi, j'ai couru après mes tefilines et finalement, eh bien, j'ai rattrapé, parce que, je sais pas, j'étais en tioul et mon sac, il a lâché, il y avait tefilines qui étaient en train de tomber et j'ai couru pour ramasser mes tefilines et j'ai pas couru pour ramasser, ma fille qui, à cause de ça, est tombée et s'est cassée la jambe. Et donc, je me dis, les tefilines m'ont fait faire une chose terrible. que j'ai préféré les tefilines à ma fille. Donc, elle inodère de plus jamais toucher les tefilines. Donc, ça, j'ai le droit. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est d'annuler un commandement négatif. C'est-à-dire, je peux pas dire, Dieu, elle a dit, on ne tuera pas, un inodère de tuer une fois par jour. Ça, ça marche pas. OK? Donc, si tu me dis par rapport à ce que tu disais sur Shabbat, Shabbat, il y a plein de mitzvot lotasé. Je ne peux pas, avec mon neder, dire, moi, je fais le neder de prendre la voiture tous les jours, y compris Shabbat. Non, tu peux pas. Ça, c'est pas dans les critères du neder. Par contre, je peux dire, ani noder, que j'allume pas les bougies Shabbat. Parce qu'une fois, j'ai allumé les bougies et ça a mis le feu à ma maison. Donc, ani noder, maintenant, je n'allume plus les bougies. Donc, le neder, c'est la capacité que j'ai d'inventer une nouvelle religion, finalement, presque. Et comme je sais que c'est une phrase très forte, oui.
Et une fois qu'on est neder, quelles sont les règles si je veux l'annuler ou si je...
Alors, si tu veux l'annuler, tu vas faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim, tu vas aller voir le raf du quartier et tu vas lui raconter pourquoi tu as fait le neder et machin. Et lui, il va essayer de te trouver une circonstance en fait qui fait que ce n'était pas un vrai neder. Et s'il ne trouve pas, eh bien, il rassemblera d'autres chachamim et ils feront Atarat Nedarim et Kol Beseder. OK ? Donc, je viens de vous balancer une phrase qui mérite au moins 10 secondes de réflexion. Je vais donc vous donner 10 secondes de réflexion parce qu'il est 9h15 et c'est l'heure à laquelle ma femme m'a dit que je devais éteindre le feu. Donc, je vais éteindre le feu et je reviens. Et voilà, c'est reparti. J'ai éteint le feu, c'est bon. Sinon, j'aurais dû être noder sur les casseroles après, donc t'imagines pas le truc. Bekitsour, le neder nous montre qu'il y a une force incroyable à notre parole. Mais ça, on comprend. C'est quelque chose qui est tout à fait audible pour le peuple juif qui sait très bien que la parole est créatrice. La vraie question, c'est... Ok, mais alors pourquoi ça vient que maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé d'Ilchot Nedarim? Moi, je ne sais pas, à la sortie d'Égypte. C'est tellement important, la parole. Pourquoi est-ce qu'on nous en parle seulement à la fin du livre de Bamidbar? En fait, cette question-là, je ne la pose pas seulement à la Torah. Je la pose, par exemple, au Rambam. Le Rambam a écrit le Yad HaChazaka, Mishneh Torah. 1000 chapitres. 1000 chapitres. Il a parlé de tout. Pourquoi le Rambam, il n'a pas parlé de Hilchot Lashon Hara? Pourquoi le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il m'explique comment je dois mettre mes lacets le matin, veze meod meod chashuv, ve maim acharonim, ve, plein de choses. Il n'y a pas véritablement de Hilchot Lashon Hara dans le Shulchan Aruch. Il y a un séif et demi qui me dit qu'il ne faut pas parler mal. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé avant? Pourquoi a-t-il fallu attendre le 19e siècle pour que Dieu envoie Rabbi Israël Meir HaKohen Miradin, Aloha Chafetz Chaim, pour que le Chafetz Chaim m'enseigne Ilchot Chafetz Chaim Shmirat HaLashon? Pourquoi a-t-il fallu attendre le 19e siècle et le Chafetz Chaim pour avoir les lois sur le Lashon Hara? Alors que le Lashon Hara est tellement important, à tel point que le Chafetz Chaim dira que celui qui tombe dans le Lashon Hara, c'est plus grave que Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Vavoda Zara, Beyachad. Eh oui! D'ailleurs, entre parenthèses, à l'époque du Tanakh, alors que les gens, des fois, faisaient Avodah Zara, faisaient Shvichut Damim, faisaient Gilou Arayot, il n'y avait pas de Lashon Hara. Et on voit que dans le Tanakh, les personnes qui parlent sur d'autres, ils sont terriblement méprisés par les personnages du Tanakh, qu'ils soient des tzadikim ou des rechaim. À l'époque de Achav Melech Israël, « En Lashon Hara bechol mamlechet Israël ».
c'est peut-être pour ça alors qu'il y a pas, que ça n'a pas été tellement développé.
Ah, tu dis, de toute façon, les Bnei Israël, ils font pas de la Shonara. Donc, on n'est plus des Bnei Israël aujourd'hui.
Non, mais c'était peut-être pas de la même manière qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'Avodah Zara et qu'aujourd'hui, il y en a moins. Donc, les livres d'aujourd'hui vont moins en parler.
Ouais.
Ben, l'inverse, peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas tellement développé et que ça s'est développé avec le temps et que du coup...
Qu'est-ce qui n'était pas développé à l'époque ?
De la Shonara.
Ah, tu dis que les gens, ils parlaient pas les, sur les uns sur les autres. Oui.
Moi, j'ai une idée, mais elle n'est pas très bien claire, mais un petit peu quand même. Je pense qu'avec l'histoire, j'ai l'impression qu'au cours de l'histoire de notre évolution à nous, l'homme a pris de plus en plus d'importance de son rôle à lui, capacité. On peut dire que... j'ai l'impression que les capacités créatrices de l'homme, en tout cas de toute la population, l'homme les voit plus avec... le temps, avec le temps moderne, ça c'est mon impression à moi.
Pourquoi tu penses ça? Parce que nous on a une révolution industrielle, mais dis-toi qu'à l'époque ils ont inventé des choses incroyables.
Non, parce que tu dis qu'un système, pour dire qu'à la Renaissance, l'homme s'est mis au centre de la création. Avant il avait moins place, il y avait plus Dieu qui tenait place. Et qu'avec le temps, l'évolution, l'homme a accordé encore sa gloire.
Attends, je vais. Et donc, alors oui, mais ça contredit, ouais, d'accord, mais alors à ce moment-là, c'est un but contre ton camp. Parce que tu dis, l'homme, il est devenu plus conscient de lui-même, et donc il s'est mis à parler n'importe comment.
Non, moi, j'ai pas dit qu'il y a de la chaîne d'erreur. D'ailleurs, c'est un truc qui m'étonne beaucoup, auquel j'ai pas à adhérer. Je pense que même en soi, on n'a pas tellement dit, et ça m'étonne beaucoup qu'il y en ait tellement. Je pense juste que. En tout cas, que les masses, que la plupart de la population, si, ça, je ne sais pas si elle est juste, a plus conscience de ses capacités créatrices.
C'est possible. Non, mais ça, c'est possible. Moi, ce que je demande, c'est, j'entends bien, mais à ce moment-là, comment ça se fait que c'est juste maintenant qu'on nous a dit « fais attention à comment tu parles » et pas avant ?
Avant, ils ne comprenaient pas.
Oh. Avant, ils ne comprenaient pas. Oh. Alors là, je suis désolé de ne pas être d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Est-ce que ça t'est... Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en vacances ? Oui, avant le corona. Quand tu pars en vacances, quand tout le monde part en vacances et que tu laisses ta maison seule, qu'est-ce que tu fais pour être sûr qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent chez toi ? Tu fermes à clé, peut-être tu as une alarme aussi qui est reliée directement avec la police, je sais pas, machoukazé. C'est-à-dire, peut-être que même quand tu es à la maison et que tu vas dormir, tu fermes la porte quand même à clé et tu as un tavor miniature sous ton coussin, comme ça si jamais il y a quelqu'un qui rentre, il sera bien reçu. Ça, c'est la version 2020 de comment on essaye de protéger ses biens. On a fermé à clé, on a acheté un super cadenas, une super porte et un super système d'alarme. Comment on se protège à l'époque où il n'y a pas de clé, de super cadenas ou de d'assurance vol et tout ce que tu veux? Les mecs qui partent en vacances, ils marquent, ils font quoi sur la porte pour être sûr qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent? Ben c'est très simple. À l'époque, ils laissent un mot sur la porte, c'est tout. Il laisse un mot où ils disent « Celui qui ouvre cette porte, si ce n'est pas moi, je le maudis sur cette génération. » Et ben voilà, ça fait le boulot. Les mecs, ils ne rentrent pas. Lama, parce que tout le monde avait une conscience très profonde de ce que c'est, par exemple, une bracha ou une klala. Pourquoi ? Parce que les gens avaient une connaissance très profonde de la force de la parole. Maintenant, donc, hein ?
Ok.
Ok. Donc, comment ça ? Alors, je repose ma question. Donc, alors, comment ça se fait qu'on n'avait plus cette conscience-là ? Eh bien, en fait, la réponse, elle est très simple. Elle est que ta parole, elle est créatrice, elle est importante, elle a une puissance énorme. Quand ? quand elle est créatrice, qu'elle est puissante et qu'elle a une force énorme. Mais lorsque ta parole, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, est tournée en dérision et n'est pas entendue, mazeméchané, ce que tu sors de ta bouche. Ce que tu sors de ta bouche, si de toute façon tout le monde le méprise, ah ! Or, nous a déjà expliqué le roi Salomon que Chochmat Amisken Bezouya ou Devarav Einam Nishmaim dans le livre de Michelet. Chochmat Amisken Bezouya ou Devarav Einam Nishmaim. La sagesse du Misken est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Vous vous rappelez bien, j'imagine, du deuxième chapitre du Petit Prince. Il y a un moment donné où il y a certains livres qui doivent être connus quand on veut avancer dans la Torah. Donc, le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry Zal, eh bien, dans le deuxième chapitre, on nous raconte à quel point les adultes ne comprennent rien. Et donc, l'auteur nous explique qu'un jour, il y a un scientifique turc qui a découvert un astéroïde B35 et il en a fait la démonstration au corps scientifique, une vraie démonstration scientifique, ce que tu veux, pour expliquer qu'il avait trouvé l'astéroïde B35. Le seul problème, c'est qu'il l'a fait en habit traditionnel turc. D'ailleurs, en babouche, en tarbouche et autres djellaba. Tout le monde lui a ri au nez. Un an plus tard, ce même scientifique a refait la même démonstration devant le même parterre de scientifiques, mais seulement habillé à l'européenne, en costume, en monocle et avec un chapeau. Et toute la communauté scientifique l'a applaudi et a dit que c'était une découverte incroyable. En d'autres termes, tant qu'il était considéré comme un misken, il n'était pas entendu. Mais quand il était considéré comme quelqu'un, ah là là, c'est là, t'es un Européen, ça le fait, alors on l'entend. Am Israël, bagalout ou misken. Am Israël dans l'exil, il est misken. Et donc, quelle que soit la chose qu'il a à dire, personne ne l'écoute. Et donc, bagalout, notre parole, elle n'a pas tellement d'importance. Et comme elle n'a pas tellement d'importance, c'est pas tellement chachouv d'écrire les lois sur la parole. Mais lorsqu'on se prépare à sortir de galout, lorsqu'on se prépare à sortir d'exil et donc à retrouver toute la force de notre parole, alors la Torah nous donne la paracha de Matot avec les Hilchot Nedarim. Parce que maintenant, ta parole, elle va avoir un poids. De la même façon, lorsque Dieu, il se prépare à faire sortir son peuple d'exil au 19e siècle, eh bien, il précède la Géoula par l'arrivée du Rav Meir, Israël Meir HaKohen, du Rav Etzraïm, pour nous réapprendre à parler. Tout simplement. OK ? Maintenant, une fois qu'on a appris à parler, ça va, on a retrouvé ce qu'on était capable de dire. Donc, il est temps qu'on ait quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'on a à dire ? Eh bien, on a à dire une chose très importante. Que c'est pas parce qu'on a beaucoup de choses à dire qu'on n'est pas capable non plus de faire la justice et de se battre. N'oubliez pas que le peuple d'Israël est à l'aube de la conquête de la terre d'Israël. Et n'oubliez pas que la raison ultime de notre combat, conflit avec les peuples cananéens et voisins de l'époque, c'est d'abord et avant tout un combat moral. Quand on regarde notre paracha, on va avoir la guerre contre Midian. Seulement, cette guerre contre Midian a la ressemblance des autres guerres du Tanakh. Elle est ultra violente. Elle est ultra violente et laisse tomber la Convention de Genève. Elle n'avait pas lieu d'être à l'époque. Et franchement, quand tu lis la guerre de Midian, mais quand tu lis Bichlal, toutes les guerres dans le Tanakh, c'est dur. Et il y a un homme que ça a beaucoup dérangé. Cet homme, il s'appelait le Rav Moshe Dr Zeidel. C'est comme ça que le Rav Kook l'appelait. Il disait tout le temps Rav avant son nom en hébreu et son titre scientifique avant son nom de famille non juif. Alors, il s'appelait le Rav Moshe Dr. Zeidel. Et le Rav Moshe Dr. Zeidel, il avait plein de questions qu'il posait au Rav Kook. Et on retrouve toutes ces questions dans Igrot Reiya, dans le livre Igrot Reiya. Et parmi les questions, il lui a posé la question de la guerre. Il dit, parmi toutes les guerres qu'on trouve dans le Tanakh, comment ça se fait qu'elles sont aussi barbares que ça? Et le Rav Kook lui répond qu'il faut bien qu'on avoir conscience que les peuples qui sont côtoyants les Bnei Israël à l'époque, les peuples cananéens et de la région, sont d'une bassesse morale absolument ahurissante. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un cananéen, quoi. Dire, l'ambiance des Cananéens, c'est dur. Hein. C'est bas au niveau moral, on n'est pas là, quoi. D'ailleurs, la preuve, vous savez, l'Empire romain n'était pas vraiment connu pour sa tendresse morale. Dire, quand tu es un empire qui se délecte d'aller voir les jeux du cirque et qui est super heureux de voir des mecs se charcuter entre eux, tu te poses des questions quand même quant à la valeur morale de l'Empire. Eh bien, les Romains eux-mêmes, lorsqu'ils vont faire le siège de Carthage, c'est tout simplement des Cananéens reconvertis, puisque les Carthaginois qui ont créé l'Empire de Carthage à Tunis ne sont autres que le Girgashi, qui est un des sept peuples cananéens qui a fui face à Yahushua. Eh bien, les Romains, ils te disent que les Carthaginois, ils ont balancé 300 bébés du haut des murailles, en offrande aux dieux pour gagner la victoire contre les Romains. Et les Romains, ils disent, ils sont choqués. Genre, ça se fait pas de faire ça. Genre, t'as réussi à choquer le peuple qui a inventé les gladiateurs. Ben, ça te montre un petit peu le niveau moral des Cananéens. Les mecs, ils ont inventé quand même le molaire. Avodat à molaire, c'est pas mal. C'est genre, tu prends ton premier-né, tu le balances dans le feu. C'est un concept quand même. Et donc, le Rav Kook, il dit qu'à l'époque, on était entouré de Zeve Erev Mamash, qu'on était entouré de loups enragés pour de vrai. Et donc, il dit, quand il fallait se battre contre eux, il était évidemment hors de question d'être un agneau, mais on ne pouvait pas non plus se contenter d'être un loup pour faire face à ces loups enragés. Nous devions devenir des Tyrannosaurus Rex pour les calmer. C'est-à-dire qu'on devait faire preuve d'une violence énorme à l'époque pour que justement la morale juive puisse s'imprégner dans le monde. Oui, il a fallu mettre une grosse baffe à un moment pour qu'on ait pu en remettre après. Aval, tu n'as pas le droit quand tu mets la baffe d'être malé kas vesina. Tu dois mettre la baffe le tikkun haolam. C'est pour ça que lorsque Dieu il s'adresse à Moshe pour la guerre de Midian, il dit « Nekom et nikmat bene Israël et à Midianim. Venge les bene Israël. » Mais lorsque Moshe s'adresse aux bene Israël, il dit aux bene Israël, il faut qu'on parte en guerre contre Midian. Pourquoi? Pour l'inkom et nikmat Hashem. Ce n'est pas pour nous. On ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour que Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler dans le monde. Ok? Et donc, ça nous montre que maintenant qu'on a quelque chose à dire, on ne peut pas se contenter que d'être des gens qui parlent. On va parler, mais on va aussi montrer qu'on a de quoi faire taire les autres s'il le faut. Et c'est très important que le peuple juif ne soit pas vu seulement comme un peuple de gens éduqués, comme un peuple de gens savants, mais qui n'est pas capable de prendre sa responsabilité et son destin entre ses mains. C'est-à-dire que Am Israël doit redevenir Chazak. Et c'est pour ça que la guerre de Midian fait prélude aux différentes guerres que Yahushua va devoir mener. Ok ? Bon, bah, très bien. Donc, on sait qu'on a quelque chose à dire. On a retrouvé notre voie. On a montré qu'on n'était pas non plus frayerim. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Eh bien, ce qu'on a à dire est présent dans la dernière partie de notre paracha de Matot. Puisqu'on va retrouver un cas très particulier. Ça y est, on est prêt à rentrer en Israël, à passer le Jourdain. et aller conquérir la terre d'Israël. Et tout d'un coup, les tribus de Réhouven et Gad viennent voir Moshe en lui disant « Écoute, Moshe, nous, on aimerait bien finalement s'installer de ce côté-là du Jourdain. On a beaucoup de troupeaux et c'est une terre qui est très fertile. On aimerait bien s'installer là-bas. » Matem omrim, tov ou lotov? Matem omrim. Alors, attends, t'as raison, Barou. Moshe, il leur dit, à la fin, il leur dit, ok, mais venez avec nous faire la guerre, pas de problème. Mais moi, je veux parler simplement de leur volonté d'aller s'installer là-bas. C'est top ou c'est l'autre?
Moi, j'ai une réponse.
Vas-y.
C'est tellement Moshe que comme ils savaient que Moshe n'allait pas passer le Jourdain, donc en fait, le fait qu'il reste de l'autre côté, ça fait que Moshe est enterré en Israël quand même.
Ah, Zématok. Je signe complètement la réponse. Je signe complètement la réponse. Alors, je t'en propose une autre. Ok? Dans mes heures perdues, et je partage avec vous, dans mes heures perdues, lorsque je suis dans des endroits de ma maison où je n'ai pas le droit, halakhiquement parlant, de penser à la Torah. Et je dois donc trouver un autre sujet de réflexion parce que j'ai pas le droit là-bas de penser à la Torah. Eh bien, j'ai découvert sur cet instrument de la Géoula qui s'appelle le téléphone, j'ai découvert un monsieur qui faisait un travail très sympathique sur YouTube et qui en fait refait l'histoire. La chaîne s'appelle Altériste, genre histoire alternative. Et en fait, le mec, il prend plein d'événements de l'histoire humaine et il change un détail. Et il dit, et qu'est-ce qui se serait passé si on avait changé ce détail-là? Et après, il t'invente des scénarios complètement fous. Genre, qu'est-ce qui se serait passé dans le monde si Napoléon avait gagné la campagne de Russie? Par exemple.
C'est en français ou...
Non, en français. En français, très beau travail, très sympathique. Voilà, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est très sympathique. Mais en tout cas, je voudrais faire la même chose. Et je pose la question. Qu'est-ce qui se serait passé si les tribus de Réhouven et Gad, ils n'avaient pas demandé à Moshe d'aller s'installer là-bas? C'est-à-dire que où est-ce qu'ils auraient été s'implanter, Réhouven et Gad? De l'autre côté. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui serait advenu des territoires à l'est du Jourdain? Alors, de deux choses l'une. Soit, on les aurait reperdus et d'autres peuples seraient venus les reconquérir. Soit, j'imagine qu'on aurait quand même mis une garnison là-bas pourrait faire en sorte qu'on ne vienne pas nous reconquérir, mais ça aurait été un no man's land. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait des peuples là-bas. Il y avait le Sichon et Og. Il y avait des gens qui habitaient là-bas, on a fait la guerre contre eux, on les a éclatés. Mais maintenant, il n'y a plus personne là-bas. Et qu'est-ce qui se serait passé si Réhouven et Gad n'avaient pas été là-bas? Eh bien, il se serait passé que le pays d'Israël, fraîchement créé avec Yehoshua, aurait été complètement isolé de tous les contacts humains. Il n'aurait eu aucun contact avec l'être humain. Il aurait été complètement fermé et recroquevillé sur lui-même. Pourquoi? Parce que de chaque côté, il aurait été sans contact avec d'autres civilisations. À l'ouest, il y a la mer Méditerranée, donc il n'y a personne. Au sud, il y a le désert du Negev et du Sinaï. Il n'y a personne. Au nord, c'est le Liban actuel, sauf que le Liban actuel, à l'époque, ce sont des forêts impraticables. Il n'y a personne qui y habite. Tsor et Tsidon, c'est beaucoup plus haut. Et à l'est, eh bien, il y avait des peuples qu'on a éclatés. Donc, si on ne met plus personne là-bas, ça deviendra un territoire sans personne. Et donc, de nouveau, il n'y aura pas de contact avec l'extérieur. On aurait été complètement isolé du reste du monde. Or, eh bien, le message du judaïsme, c'est un message que le peuple juif a donné à l'humanité. Et donc, on se doit d'avoir un contact avec cette humanité. Le fait que Gad et Réhouven aient demandé à aller s'installer là-bas fait qu'il y aura toujours un contact entre le peuple juif et les autres nations. D'ailleurs, les tribus de Gad et Réhouven, eh bien, si tu prends leurs initiales, ça fait le mot « guerre ». Car c'est exactement à cela que sert le guerre, le converti. Il sert à faire le lien entre Am Israël et les nations. Puisque le guerre est celui qui comprend le mieux la nation de là où il vient. En d'autres termes, le fait que Réhouven et Gad demandent à s'installer là-bas fait qu'on continue à avoir un lien avec le monde et que notre message, que maintenant on a retrouvé notre voix, eh bien, va pouvoir être transmis au monde entier. Donc, on a une voix, on a aussi un bras armé et on a un message à donner à l'humanité. Donc, on est bon, tout va bien. Nachon, on est bon, tout va bien, sauf que il y a un danger maintenant. Ce danger, c'est quoi? Eh bien, c'est que fort de cette voie retrouvée, fort de cette force concrète et fort de cette volonté de transmettre un message au monde entier, c'est quoi le danger? Bah, c'est d'aller dans le monde entier et d'aller commencer à donner ce message un peu partout. Non. Pour que ce message puisse être audible, il faut qu'il ait une base. Et c'est pourquoi la paracha de Masé, il était temps, va nous dire le verset. Eh oui, la paracha de Masé va nous balancer le verset qu'on attendait depuis 4 livres. Mais ça y est, cette fois, on ne peut plus reculer. La paracha de Masé, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de toutes les Massaot, c'est-à-dire de toutes les évolutions du peuple juif depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Israël. Combien de Massaot y a-t-il? 42. 42 Massaot qui sont réunis dans 49 versets. Il y a 49 versets dans la Torah qui nous parlent des Massaot des Béné Israël. Ces 49 versets sont en vérité tout simplement, bah vous le savez, les 49 paliers d'évolution. On connaît ça bien grâce au Homer, grâce aux 49 jours du Homer. Il s'agit ici à chaque fois d'une évolution supérieure pour arriver finalement au verset de conclusion. Nous sommes dans le chapitre 33 du livre de Bamidbar. Et c'est là qu'on nous dit « Elem mas'ei b'nei Israël asher yatsu me'eretz Mitzrayim et tzivotam be'yad Moshe ve'aharon va'irtov Moshe et motzaeem le matzaeem al piyashem ve'elle mas'aeem le motzaeem. » Et donc, au troisième verset, on commence à nous énumérer les 42 stations. Au chapitre, toujours 33, lorsqu'on arrive donc après les 42 Massaot, on arrive finalement au verset 53. Ça y est. Sauf le verset 53, on l'attendait, parce qu'à quoi ça sert d'avoir passé toutes ces Massaot? Eh bien, je vous lis le verset. Donc, verset Mem Gimel. Verset Nun Gimel du chapitre Lamed Gimel. Une fois qu'on a terminé de t'expliquer toutes les Massaot, alors je commence au verset Nun, au verset 50. Vaidaber Hashem el Moshe be'arvot Moab al Yarden Yericho lemor. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן על הארץ כנען. Donc Dieu a dit à Moshe, dis-leur que ça y est, vous traversez le Jourdain. Et alors quoi? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו. Vous ferez la guerre avec les peuplades qui sont là-bas et vous détruirez la avoda zara. Si on s'arrête là, ce n'est que, en fait, une espèce de marche d'un djihad. Mais non, parce qu'il y a le verset le plus important qui arrive maintenant. Ve'orashtem et ha'aretz ve'ishaftem ba. Ki lachem natati et ha'aretz l'areshet ota. Ve'itnachaltem et ha'aretz begoral le'mishporotechem l'ratar ben l'armoed nachalato ve'lamaat amin nachalato el asher yetze lo shamma agoral lo ye למטות אבותיכם תתנחלו. והורשתם את הארץ וישבתם בה. Et voilà. On l'a tellement attendu ce verset. Vous prendrez possession de la terre d'Israël et vous vous y implanterez. Ce verset, c'est tout simplement la base de la mitzvah qu'il y a non seulement d'habiter en Israël, mais de conquérir la terre d'Israël. C'est une mitzvah d'Oraïta. Alors, je sais que j'enfonce une porte ouverte ici, parce que je suis devant un public de convaincus, mais il est temps de le savoir clairement. Non, ce n'est pas seulement un idéal sioniste qui m'habite au fond de mon cœur, c'est une mitzvah de la Torah. Nekuda. Ah, oh, mais il y a des gens qui ont dit c'est pas vrai, c'est pas une mitzvah. Le Rambam, il l'a pas marqué dans le Sefer HaMitzvot. C'est une mitzvah. C'est vrai. C'est vrai que le Rambam ne l'a pas marqué dans son décompte des 613 mitzvot. C'est vrai. Il l'a marqué ailleurs. Il l'a marqué dans Ilchot Melachim, que c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Mais il ne l'a pas marqué dans le décompte des 613. Pourquoi ? Parce qu'il il l'écrit dans les lois, dans, pas dans les lois, dans l'épître aux juifs du Yémen, Igeret Teman, que ne sont des mitzvot que des choses qui ne sont pas évidentes pour la survie. Il n'y a pas de mitzvah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. C'est évident que le juif, il habite en Israël, point. Donc, le Ramban ne l'a pas marqué dans son décompte, mais le Ramban, ben lui, il a dit, oui, c'est une mitzvah. Il faut la compter parmi les 613 mitzvot. Et le Sifri ira même jusqu'à dire que c'est l'une des quatre mitzvot qui est aussi importante que les 612 autres. Alors vous allez me dire, ouais, mais Rabbi Moshe Dileon, il n'est pas d'accord. Seulement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand j'ai dit le Ramban tout à l'heure, vous saviez de qui je parlais. Là, je vous balance Rabbi Moshe Dileon. Vous ne savez pas de qui je parle. Ça ne montre pas que Rabbi Moshe Dileon a forcément tort. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a aucun rapport avec Léon Lébreux.
Non, aucun rapport.
Okay.
Rabbi Moshe Dileon, c'est le 12e siècle. Et Rabbi Moshe Dileon, personne ne le connaît ici. C'est un chacham qui a écrit un commentaire sur le Rambam qui s'appelle Megillat Esther. Et dans ce commentaire, lui, il dit que pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas marqué que c'était une mitzvah ? Parce que c'est même pas une mitzvah. Ou du moins, c'est plus une mitzvah. C'était une mitzvah jusqu'à l'époque du roi David. Et une fois que le temple a été détruit, c'est plus une mitzvah jusqu'au Mashiach. C'est un avis. Évidemment qu'il n'est pas à mettre au même niveau que l'avis du Rambam. Mais c'est même pas seulement ça. Tout, je dis bien tout, les décisionnaires de la halakha, après Rabbi Moshe Dileon, ont tous contredit son avis et se sont rangés halakhiquement derrière le Ramban. Quand je te dis tous, je te fais une liste qui n'est pas exhaustive, tu vois, mais par exemple, Rabbi Yosef Detrani, Shuta Maharit, dans Yoredea, Siman 28, Rabbeinu Yonah Landsofer dans Shut Meil Tzedaka, Rav Matzliach Mazouz, Shut Ich Matzliach, le Avne Nezer, le Rav Eliezer Waldenberg dans le Shut Tzitz Eliezer. Je t'ai ramené ici plein de acharonim qui vont être posek la halakha comme le Ramban et pas comme Baal HaMegillat Esther. Donc en d'autres termes, en mala asot, il y a ici une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. C'est très important de le rappeler. C'est important aussi de rappeler que comme toutes les autres mitzvot de la Torah, si pour une raison X ou Y, tu ne peux pas la réaliser, bah, tant pis, ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais lorsque tu peux et que tu ne veux pas, eh bien, ta moret bakadosh baruch hu. Tu t'appelles quelqu'un qui se révolte contre Dieu, ni plus ni moins. Et vous allez trouver que je suis extrêmement virulent, mais il faut dire les choses, parce que dans le reste de la Torah, le même discours n'est pas perçu comme étant virulent. Parce que si quelqu'un te dit, et je l'ai déjà dit à Givat Shmuel, je radote là, hein, mais quand quelqu'un te dit que moi, je n'ai pas envie de faire Shabbat, mais je suis quand même religieux, hein, non, on n'accepte pas. C'est-à-dire, si tu ne peux pas faire Shabbat, tu ne peux pas. Mais si tu ne veux pas faire Shabbat, on ne te considérera pas comme quelqu'un qui est Yirei Shamaim. Si tu ne peux pas manger kasher parce que tu n'as rien d'autre à manger que du cochon, sinon tu vas mourir, tu manges du cochon et tu fais la bracha chez Akol et chez Réanou. Mais si tu peux ne pas manger de cochon, mais que tu en manges quand même, alors on ne te comptera pas parmi les plus grands rabbinim. Il en va de même pour le fait d'habiter en Eretz Israël. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et ce n'est pas à moi de juger si tu peux ou tu ne peux pas, ça c'est toi et Dieu. Mais si tu ne veux pas, comment peux-tu déterminer ta relation avec Dieu comme étant une relation honnête ? Dieu t'a demandé de venir. Je me rappelle très bien, il y a 15 ans, ça date, hein, il y a 15 ans, exactement à cette période de l'année, j'étais à l'armée. Et j'ai eu la chance, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai eu la chance d'être blessé en opération. Donc j'ai été blessé en opération et résultat des courses, j'ai eu le pied dans le plâtre pendant 3 semaines. Je dis la chance parce que comme j'étais blessé et que j'étais l'officier de mon unité commando, eh bien pendant ma période de convalescence, mon unité, elle était en mode on fait rien, on attend le chef. Donc on était tous pas démobilisés, moi j'étais démobilisé pour me reposer à la maison, mais les autres ils étaient dans des bases et ils faisaient rien. Alors pourquoi je dis la chance ? Ben parce que c'était juste au moment, pour ceux qui se rappellent, de l'été 2005, c'était bien pire que le corona, c'était la Itnatkout. C'était le démantèlement à Gaza. Et donc, on a eu la chance que, comme j'étais blessé, ben on n'a pas dû participer à rien du tout, à aucun degré. Maintenant, si on avait dû participer, qu'est-ce qu'on aurait fait ? La question a été très souvent posée aux rabbanim de l'époque. Est-ce qu'il faut les Sarev Pkouda ? Ou est-ce qu'il ne faut pas les Sarev Pkouda ? Est-ce qu'il faut désobéir à l'ordre donné d'aller démanteler des juifs de leur maison en terre d'Israël ? Ou est-ce qu'il ne faut pas désobéir aux ordres ? La réponse est très simple. Est-ce que les lois du pays sont au-dessus des lois de la Torah ? Quelle est la réponse ? Y a-t-il un doute ? Je me rappelle très bien que cette question, donc moi, j'étais pas à la base, j'étais à Géru. Donc, j'allais à plein de cours. Et pendant un des cours du Rav Cherki, il y a quelqu'un qui lui a posé cette question-là. Est-ce que les lois de la Torah sont au-dessus des lois du pays ? Et le Rav Cherki a répondu, cette question est une question qui fait honte. Tu me fais honte en posant cette question. Il a dit, pourquoi ? Il dit, mais parce que c'est quoi ta question ? Tu es en train de dire, est-ce que des lois faites par Dieu, elles sont au-dessus de lois faites par quelqu'un qui n'est pas Dieu ? Barour que les lois de la Torah, elles sont au-dessus de toutes les autres lois. Il n'y a pas de débat. Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que n'importe quel premier ministre. Donc c'est évident que la Torah dépasse tout. La Torah nous dit que des fois, c'est la Torah qui nous dit que des fois, il faut transgresser la Torah, dans certains cas. Ou du moins, ça ne s'appelle pas transgresser la Torah. Par exemple, la Torah me dit que si je suis à l'armée et que j'ai une mission à faire pendant Shabbat, eh bien, la Torah me dit que je dois prendre la voiture et mon arme et faire ma mission. Donc je ne transgresse pas. C'est la Torah qui me dit qu'il faut obéir aux ordres pour remplir ma mission. De la même façon, si on est à l'armée et que je ne suis pas en mission et que je ne suis pas en entraînement vital, que je suis stam au repos et que c'est Shabbat, et que tout d'un coup, mon supérieur me dit « Allez, nettoyage des armes. » Pas parce que nettoyage des armes, parce que dans une heure, on part en opération. Non, stam, pour faire passer le temps, nettoyage des armes. Atchouvaï, lo, assour. Ma, tamesaref kouda, ken. Moi, j'ai été mesaref kouda parce qu'un jour, on m'a demandé de mettre des plats viande dans le chauffoir, c'est le plan dans les cuisines, là, les trucs d'hôtel, machin, enfin à la base quoi, les trucs qui chauffent les plats, mais qui était le chauffoir lait. J'ai dit à Valtzach Lachlif, il dit non, l'autre il est cassé, il est à la Khativa, ils sont en train de le réparer, machin. J'ai dit bah alors on mangera froid. Il dit bah putain, on mange pas froid, mais pour qui tu te prends? Allez, tu mets ça tout de suite dans les trucs. J'ai dit l'eau, c'est assourd. Zélo Kacher. Bon, la vérité, c'est que j'aurais pu très bien dire, je l'emballe dans deux rouleaux de papier d'alu et je le mets dedans et Zébesséder. Mais le mec de la cuisine, je ne l'aimais pas. Donc, j'avoue ici, je rappelle mes erreurs personnelles, enfin pas erreurs, mais ma conduite à la limite. J'aurais pu trouver un moyen de permettre ça, ilratiquement parlant. Mais j'avoue que j'étais bien content de l'embêter sur ce moment-là. Donc, j'ai dit, non, je peux pas, c'est un sourd. Ma, t'as me sarref kouda, je dis ken. Donc, il n'y a pas de débat. La Torah, elle est au-dessus. Et donc, la Torah, elle nous interdit de sortir des Juifs de leur maison. Nekouda, sauf. La Torah, elle nous interdit de transgresser Shabbat, stam. La Torah, elle nous interdit de manger pas kasher, stam. Oui? Oui.
Ce que vous parlez, ça semble tout bête. Mais en fait, c'est évident. Beaucoup de... Il faut quand même poser la question. Il y avait aussi beaucoup de... Il me semble que pas tous les rabbins, que c'est vraiment intéressant. Je veux rentrer maintenant dans le vif du sujet, mais je veux juste dire que les gens qui sont à poser la question et qui ont hésité, oui ou non, la règle de l'armée, ce n'était pas juste comme ça ou parce qu'ils ne comprenaient pas que... Maintenant, parce que c'est bon, je comprends pas bien.
J'entends très bien ce que tu dis. Tu dis, à l'époque de la Hitnatkout, il y a des rabbanim qui ont dit que c'est moutard de participer aux pinouilles. C'est ça que tu veux dire?
Oui,
bien sûr. Bien. Non, mais de toute façon, on est bien d'accord. On est bien d'accord que le soldat, le khayal, pashout, qui a posé la question à son rave et son rave lui a dit moutard, tu peux y aller, ben j'en veux pas au khayal. Lui, il a posé la question à son rave lui a dit et il a obéi à son rave et c'est très bien qu'il ait fait ça. Non, j'en veux au rabbin. En malasot. Rosh à Yeshiva, et qui était également le rave Arachil et Israël le Sheavar, et qui était également Gdol Ador, à savoir Reb Avrum Shapira, il a dit Sarir le Saref Kuda ze Asur ne Kuda. Et tous les rabbins dont tu parles, sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier, il y en a qui se revendiquaient de Reb Avrum et qui n'étaient pas du tout de son niveau. Donc, c'est comme si moi, maintenant, j'essayais de donner mon avis et je contredis le Rav Cherki. Il me colle à Kavod, le Rav Cherki, c'est le Rav Cherki, et moi, c'est moi, tu vois. Voilà.
Je voulais juste dire qu'il y a de la place, c'est les gens maintenant qui ont réfléchi au sujet et qui avaient des questions et que ces petites questions, c'est des grandes hésitations.
Mais bien sûr. Mais attends, slicha, deux secondes. Si tu me parles du soldat en question qui était dans course Thaïs et que si jamais il devait... Qui jouaient leur carrière. C'était plus qu'un élément, c'était leur carrière. Les mecs, tu crois quoi? Ils n'étaient pas bêtes, hein, les mecs qui ont décidé la Hitnatkout. Ils savaient très bien qui ils ont mis en Mahagal Rishon et Mahagal Sheni. Ils ont mis les mecs qui avaient tout à perdre. Ils ont mis les mecs qui étaient en, en formation d'officier, en formation de taille, ce machin. Donc, il est évident qu'il y avait chez eux un conflit très profond. On a vu les images. Tu étais peut-être là-bas, j'étais là-bas. On a vu les gens pleurer. On a vu les soldats faire ça, le cœur arraché, tout ce que tu veux. Il n'empêche, et ça n'est que mon avis, et je ne suis pas à la place du mec qui a passé tellement d'examens et qui a fait tellement pour être accepté en course Thaïs et qui est à un mois d'être pilote de chasse et que ça, ça va lui faire tomber. Je ne me mets pas à sa place, je ne me permettrai pas de me mettre à sa place. Je dis simplement que la Torah, ça ne dépend pas de est-ce que ça va me porter atteinte ou pas. Parce que il me colle à Kavod, deux secondes. Et alors, mais ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est une erreur. Mais excuse-moi. Attendez, temps mort. Faut arrêter deux secondes. Mais c'est pas grave. C'est très bien. D'ailleurs, vous voyez que ça fait 15 ans et c'est toujours là, tu vois. Donc c'est intéressant. On parlerait pas de tous les sujets comme ça. Par rapport à la Ardout, excusez-moi, c'est pas parce que tu es Messaref Kouda ou alors slash fais de vraies manifestations avec Rassimat Kvishim et tout ce que tu veux que tu amènes à une scission dans le peuple juif. Faut arrêter de pousser mes mères dans les orties, surtout quand elle n'est pas habillée. C'est-à-dire que Imkol Hakavod, quand la gauche israélienne, elle te fait des manifestations de malades contre la Halat Ribonut, ça ne crée pas la scission dans le peuple juif. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec des choses et même le dire de manière très, très, très forte. De la même façon que quand les Haredim ils te font des manifestations pour Kvod HaShabbat, Vayeshivot, ça, bah, tu te rends bien compte que deux semaines après les manifestations, eh ben, on est toujours un seul peuple et à Kol Beseder. Donc, ce n'est pas parce que tu aurais eu de vraies manifestations, Chassimot, Kvishim, ce que tu veux, et des Sirouvet Pkouda, que ça aurait fait tout de suite la séparation en deux peuples juifs. Faut pas donner trop d'importance non plus à cela. D'un autre côté, quand tu dis ça leur fait quelque chose, bah, d'abord avec des si, on mettrait Paris en bouteille. J'ai parlé tout à l'heure de mec qui fait sa chaîne de YouTube. Et si on avait changé ça, viens, fais-moi un scénario. J'en sais rien. Je pense moi que oui. Je pense que si les Datim Lehumim avec leur kippot Srugot, ils n'avaient pas fait une grande chaîne humaine de Jérusalem jusqu'au Gouche Katif, mais qu'au lieu de faire une chaîne humaine sur le trottoir, ils s'étaient mis sur toutes les routes et ils auraient bloqué tous les autobus de Khayalim qui seraient arrivés, je pense que ça aurait pu faire quelque chose. Je veux simplement les haïr, les Tzoumet Liber, que jamais de la vie, tu verras une Memshelet Israël qui va tenter de démanteler Kiryat Sefer. Parce que si tu as des soldats qui s'approchent de Kiryat Sefer, les mecs, ils vont sortir avec des shtenderim et ils vont leur éclater le casque à coups de shtender. Je dis pas qu'il faut taper sur les khayalim, mais je dis qu'on aurait pu être un tout petit peu plus taquif par rapport à ce qu'on a fait. Mais on a choisi, en tant que tzibour, d'être un tzibour de chamoudim et de dire nous, on pleure, et Bezrat Hashem, ça va éveiller la matzpoun des gens. Ça n'a rien réveillé du tout. Rien du tout. Et ça a fait en sorte que le peuple juif, il n'en a absolument rien eu à faire du Gouche Katif. Pas shoot. Personne qui n'avait pas une kippa sruga ou une chatzaït un peu au vent et un seret katom, à part ces gens-là, tout le reste de la société israélienne n'en avait absolument rien à faire de ce qui se passait en août 2005. Et tu le sais aussi bien que moi, on était là-bas tous les deux. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que on se l'est joué, nous on est des mamlartim. Mais la Torah, elle nous demande d'être Néhéman, la Médinat Israël, mais pas forcément le même Shelet Israël. C'est-à-dire que pour nous, l'État d'Israël, c'est Kadosh, mais les gens qui composent l'État, ben, peut-être qu'ils sont bien, peut-être qu'ils ne sont pas bien. Et s'ils ne sont pas bien, on a le droit de demander qu'ils démissionnent. On a le droit de dire qu'on n'est pas content. Donc tu me dis, ça faisait quelque chose aux gens qui avaient donné toute leur vie pour l'idéal de Ardoutam, Vemamlartiout, Vemedinat Israël. il y a des gens qui étaient ultra mamlartim, qui après le Gouch Katif ont décidé d'arrêter de dire le Hallel à Yom HaAtzmaout. Mais Gamze, excusez-moi, mais Gamze, stupide. Parce que c'est pas parce que Medinat Israël a fait quelque chose de terrible que ça s'arrête d'être Medinat Israël pour autant.
Et à ton avis, ça venait d'où finalement cette décision en tant que Tzibour ? Est-ce que c'était suite je crois que le comment ça s'appelle la ville qui a été rendue à l'Égypte ?
Yamit.
Là-bas, ça avait, ouais, à Yamit, ça avait été beaucoup plus violent, non ?
Mais disons que c'est dans les deux sens. Ça avait été plus violent, mais comme c'était tellement petit, je veux dire, Yamit, c'était tout petit comme implantation. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais ça avait été beaucoup plus, ça avait fait un éclat de Tzibouri beaucoup plus grand pour deux raisons. La première, c'est que c'était la première fois. Et deux, parce qu'à Yamit, il y avait tout le peuple juif. Parce qu'à Yamit, il n'y avait pas que des kippot srougot. Maintenant, pourquoi est-ce que finalement ça a marché? Parce qu'au final, il y a eu Eskem Shalom im Mitzrayim. Et qu'au final, les gens, ils ont quand même finalement pensé que c'était quand même le désert du Sinaï et que ce n'était pas si grave que ça. Ce qui est, à mon avis, une erreur. Mais c'est sûr que sur le moment, ça a été beaucoup plus ressenti comme un traumatisme que le Gouch Katif. Maintenant, comme Tzibour, on ne va pas refaire de la politique du public sioniste religieux, mais Imkol HaKavod. Le public sioniste religieux, il ne sait pas se battre, et je me mets dedans, hein, vous savez très bien qui je suis, mais il ne sait pas se battre pour ses convictions. Et les dernières élections ne peuvent que le prouver. Mais Zepachout, j'ai donné un cours ce matin sur la tfila, sur la bracha de Hashiva Shofteinu, machin, j'ai parlé de la notion de devoir reconstruire le Sanhedrin, et quelqu'un m'a écrit... non, mais en fait, tu sais bien que ça marche pas parce que l'ego des rabbanim, et aujourd'hui le rabbi de Gour, il est pas capable de s'asseoir avec le rabbi de Belz. Je lui ai dit, écoute, mon ami, au moins le rabbi de Gour et le rabbi de Belz, ils sont ensemble dans leurs élections et ils ont un projet commun et ils font beaucoup plus de pourcentage que tes rabbins à toi. Imkol HaKavod, le public sioniste religieux, à force de vouloir être partout, ben, des fois il n'arrive pas à être nulle part. Achav, Yecholiot, je mets un bémol à ce que je dis, Yecholiot que sur le très long terme, c'est ça qui va faire marcher. Parce que sur le très long terme, bah, petit à petit, t'es un peu partout. Et donc Yecholiot qu'à un moment donné, ça va vraiment payer. Mais là maintenant, ce que ça montre, c'est que bah, tes représentants, mes représentants, bah, où ils sont aujourd'hui? Nulle part.
D'une certaine manière, ça a payé au niveau du nombre d'implantations qu'il y a.
Ah, il y a fait ? Il y a fait ? Ça a payé au niveau du nombre d'implantations. Il y a fait. Grâce à qui ? Grâce au Rav Tzvi Yehuda Kouk. Parce que les implantations, le mouvement de Gouch Emunim, il a été lancé par une manigoute, par des dirigeants qui étaient des vrais dirigeants et qui n'avaient pas peur d'aller contre. Je te rappelle que les premières implantations, l'État d'Israël, ils ont dit non. Et le Rav Tzvi il a dit, bon, on y va quand même. Ouais. C'est vrai. Donc. Ah, ça c'est barreau. Ça c'est barreau. C'est barreau que c'était une erreur. Finalement, le Gouch Katif, c'était Bnei Brak avec une kippa srouga. Ben, tu m'étonnes que quand c'est Bnei Brak avec une kippa srouga, ben, ceux qui sont à Tel Aviv, ils n'en ont rien à faire. Ben, c'est pas shoot. Non, on va pas refaire le match. Zéaya, Zéaya. Mais simplement de dire que la notion de il y a la Médina et il y a la Torah, il n'y a pas de débat. La Torah, elle est la Torah. Là où il y a le ridouche du monde sioniste religieux, c'est que nous, on voit la Médina comme étant la réalisation de la Torah. Tout simplement. Eh ben, on a du boulot, hein. On a du boulot. Mais enfin, vous avez compris que la paracha de Masé devait, avant de clore le livre de Bamidbar, nous dire, les gars, aller en Israël, c'est pas seulement un tioul, c'est une mitzvah. Et comme dit le Sifri, c'est une mitzvah qui vaut les 612 autres mitzvot. Et nous sommes des gens qui, Baruch HaShem, avons fait le pas de réaliser cette mitzvah. Et il n'y a plus qu'à aider nos frères qui ne l'ont pas encore fait à le réaliser, Bezrat Hashem. Chazak Omaro. On reparle du Gouchkatif quand vous voulez. Hein. On reparle du Gouchkatif quand vous voulez.